grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Tocqueville parlait de la passion française de l'égalité, une passion de l'égalité qui agite la France depuis la Révolution française. La crise des Gilets jaunes l'atteste de façon éclatante. Ce matin, nous essayons de comprendre pourquoi l'égalité peut rendre heureux. Et si les inégalités de revenus étaient le principal obstacle à la santé et au bonheur des habitants des pays développés? Et si c'était plutôt l'égalité des conditions qui faisait le bonheur et non pas l'argent? C'est la thèse défendue par deux épidémiologistes britanniques, Richard Wilkinson et Kate Pickett. Dans leur nouveau livre, Pour vivre heureux, vivons égaux, ils ont accumulé, agrégé, compilé des données, les données d'une vingtaine de pays développés, et ils démontrent de façon convaincante que les inégalités accroissent le stress, minent la santé mentale et détériorent le bien-être collectif. Richard Wilkinson est notre invité ce matin. Avec nous également Alexandre Jost, directeur de la Fabrique Spinoza, et Christina Pelledouel, journaliste à Psychologie Magazine. Nous attendons vos questions et réflexions sur l'égalité au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Marie-Robert.
Bonjour Ali.
On vous retrouve tout à l'heure dans votre petite philosophie de la vie quotidienne. Il sera bien sûr question d'égalité.
Effectivement, mais plus que d'égalité, il sera question de savoir pourquoi le signe égal est peut-être l'un des ancêtres des émojis.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Il paraît que Dieu, c'est lui qui a dit, l'homme est égaux. Il paraît que Dieu, il a dit, il y aura des hommes blancs, il y aura des hommes noirs, il y aura des hommes petits, il y aura des hommes grands, il y aura des hommes beaux, il y aura des hommes moches, et tous seront égaux. Mais ça sera pas facile. Et puis il a même ajouté, il y en aura qui seront noirs, petits et moches, et pour eux, ça sera très dur.
Sketch célèbre de Coluche. Bonjour Richard Wilkinson, vous êtes professeur émérite d'épidémiologie sociale à l'université de Nottingham et vous avez coécrit avec Kate Pickett « Pour vivre heureux, vivons égaux » publié aux éditions « Les liens qui libèrent ». Bonjour Alexandre Jost. Vous êtes le directeur de la Fabrique Spinoza, bonjour.
Bonjour Ali.
La Fabrique Spinoza, c'est le think tank du bonheur citoyen. Bonjour Christina Pelledouel.
Bonjour Ali.
Vous êtes la responsable de la rubrique livre à Psychologie Magazine. Richard Wilkinson, c'est quoi exactement votre discipline, l'épidémiologie sociale? C'est quoi?
Il s'agit de s'intéresser à la santé des populations. Les épidémiologues sont les gens qui étudie les conséquences de l'exposition à des maladies, par exemple le cancer, exposition à des produits chimiques. Les épidémiologues font des statistiques sur ces expositions. Les épidémiologues sociaux, eux, s'intéressent aux déterminants socio-économiques de la santé, non pas du point de vue médical, mais de ce point de vue-là.
Alors, il y a 10 ans, Richard Wilkinson, dans un précédent livre, vous démontriez que les pays développés inégalitaires étaient en moins bonne santé que dans les sociétés égalitaires, avec une espérance de vie plus basse, des taux plus élevés de mortalité infantile, des maladies mentales plus élevées et avec une consommation d'alcool et de drogues illicites plus forte que dans les sociétés égalitaires.
En effet, nous avons comparé les niveaux d'inégalité, les différences de revenus entre les riches et les pauvres dans les pays en développé. Nous avons montré une corrélation entre différents éléments, non seulement en matière de santé, vous l'avez dit, mais aussi en matière de violence, et en matière d'incarcération, de consommation d'alcool et de performance scolaire aussi. Il y a des grandes différences. En fait, tous les problèmes que l'on retrouve en bas de l'échelle sociale s'empire lorsqu'il y a une augmentation des différences de revenus.
Et puis vous montrez que les inégalités affectent la grande majorité des populations dans les sociétés développées et pas seulement la minorité pauvre. Les inégalités affectent toutes les couches sociales.
L'inégalité a un impact plus fort sur les pauvres, mais en fait, tout le monde est touché. Donc, les questions... Si, dans les pays égalitaires, on voit une meilleure espérance de vie, on voit moins de victimes de la violence, les enfants se portent mieux à l'école, l'éducation est meilleure, et il y a moins de consommation de drogue.
Est-ce qu'on peut dire qu'à partir d'un certain niveau de développement, ce n'est plus la richesse supplémentaire qui assure un certain niveau de bonheur, mais plutôt la façon dont cette richesse est répartie?
Eh bien, si on regarde les pays riches et les pays pauvres, on voit une tendance selon laquelle la croissance économique améliore le bien-être, et ce dans les pays pauvres notamment, mais dans les pays riches, en revanche, on voit que cette corrélation s'estompe. Bien que l'on continue à avoir des augmentations de l'espérance de vie, hier, j'ai appris qu'en France, l'espérance de vie n'augmente plus, par exemple, et bien donc ces changements ne sont plus tirés par la croissance économique. La relation par rapport au bien-être et au bonheur, toutes ces corrélations-là s'estompent. Parfois, on a tendance à dire que la croissance économique, c'est ce qui transforme la qualité de la vie, mais maintenant, on s'arrête là. Il y a une sorte de plateau qui est atteint.
Alexandre Joss de la Fabrique Spinoza.
Ce paradoxe, il est connu depuis les années, depuis 1974, c'est le paradoxe d'Easterlin. Après, ma compréhension de celui-ci, c'est que lorsque la richesse par habitant continue à augmenter, eh bien, le subjective well-being, le bien-être subjectif de la population, lui aussi continue à augmenter, mais de manière marginalement moins importante. Donc, pour moi, ça pose la question de quels sont les autres éléments que la richesse économique a développé dans un pays pour favoriser le bonheur. Mais la richesse continue à avoir un impact pour le bonheur de chaque personne, même au-delà d'un certain niveau de richesse.
Richard Wilkinson.
Moi, je crois que pour mesurer le bonheur et le bien-être, il faut s'intéresser à la qualité des relations sociales. Le nombre d'amis, la qualité des relations, est-ce que vous participez à la vie de la communauté? Il y a de nombreuses études qui montrent que ce sont des éléments cruciaux qui déterminent le bien-être et le bonheur, mais aussi la santé. Il y a de nombreuses études, on va dire, moi j'ai vu 150 études qui montrent une relation entre l'amitié et la santé. Plus vous avez d'amis, meilleure est votre santé.
Est-ce que vous adhérez, Richard Wilkinson, avec la thèse selon laquelle les sociétés humaines sont par essence inégalitaires? Que nous disent, par exemple, les recherches anthropologiques sur les sociétés de chasseurs-cueilleurs?
Eh bien, on a tendance à penser que l'inégalité, la concurrence, tout ça, ça procède de la nature humaine. En réalité, il y a deux natures humaines. Il y en a une qui est pré-humaine, donc là, on est dans la domination, le classement, et ainsi de suite. Je vous parle des singes, par exemple, les babouins, les grands singes, mais... Chez les cueilleurs-chasseurs, on retrouve ça aussi. En réalité, on parle d'espèces qui sont à 90% identiques aux nôtres. Donc, il y a un partage de nourriture, des échanges, d'offrandes, et ainsi de suite. Et les dominants, ceux qui sont devenus dominants, ont été rejetés par le groupe. C'est un petit peu comme si on les condamnait à mort quand on les rejette de la communauté. Et quand on rejette quelqu'un d'une société de chasseurs-cueilleurs, c'est comme si on les condamnait à mort.
Pour moi, il y a un deuxième apprentissage de ça, c'est que ce nombre de Dunbar, de 150 personnes, il nous indique peut-être un moyen de restructurer notre société. On est dans une ère de l'hyper-société, les réseaux sociaux font qu'on se compare à des vies idéales, et pour autant, le nombre de la taille du groupe humain dans lequel on se sentirait bien, c'est 150 personnes. Et j'aime bien rappeler cet exemple de l'entreprise Gore, qui a réparti ses salariés en unités de 150 personnes, parce que dans chacune de ces unités, eh bien on peut se sentir bien parce qu'on a une compétence qui est reconnue, on est parmi les 5 meilleurs, on a tissé des liens sociaux. Donc pour moi, c'est une invitation à restructurer nos groupes humains d'une taille optimale et d'autre part, bah, évidemment, nous détacher de ce phénomène de comparaison qui est si nocif pour chacun d'entre nous.
Je
suis d'accord avec vous en ce sens qu'il nous faut plus de contacts sociaux dans des groupes plus restreints. Néanmoins, l'inégalité nous montre que cela détruit la vie de la communauté. Il y a beaucoup d'études qui montrent cela. On a moins de chances de connaître nos voisins dans une société inégalitaire. Les liens sociaux s'affaiblissent et par ailleurs, les gens sont moins enclins à s'aider les uns les autres. On est moins enclins à aider les personnes handicapées ou les personnes âgées. Il y a plus de violence, il y a moins de confiance à mesure que l'inégalité s'accroît.
Chrysilla Pelédouel, vous avez lu le livre de Richard Wilkinson, oui. Kate Pickett, et vous avez beaucoup aimé.
Je l'ai lu personnellement pour répondre à une plaisanterie de Richard Wilkinson.
Hors antenne.
Oui, hors antenne.
Pourquoi vous avez aimé Pour vivre heureux, vivons égaux?
J'ai trouvé que c'était un livre absolument passionnant, et passionnant pour plein de raisons. D'abord parce que c'est un livre très solide, très très documenté, très argumenté, et surtout parce que c'est un livre qui prend la question de l'inégalité sous l'aspect des conséquences. Des inégalités, des conséquences pas seulement économiques, comme on a l'habitude de le lire dans la plupart des ouvrages, mais des conséquences sociales, psychologiques et sanitaires. Et cette interconnexion entre les inégalités et les conséquences apparaît dans ce livre avec une force de conviction tellement importante que alors vous pouvez le regarder, j'ai lu ce livre attentivement, j'ai corné quasiment toutes les pages, souligné quasiment tous les passages. Tellement j'avais lu le premier, mais je trouve que celui-là a une force de persuasion extraordinaire. Alors vous parliez là à l'instant justement des chiffres qui sont sortis avant-hier dans Le Monde sur la baisse de l'espérance de vie en France, pas seulement en France d'ailleurs, dans la plupart des pays développés, mais en France particulièrement. Et je trouve que ces chiffres étaient absolument frappants, d'autant plus frappants qu'ils font ressortir que non seulement on arrive à un plateau, ce qui n'est pas très étonnant finalement, l'espérance de vie ne peut pas toujours augmenter, mais on arrive à un plateau, mais ce plateau n'est pas égal pour tout le monde. C'est-à-dire que les personnes avec des hauts revenus ont une espérance de vie plus longue que ceux qui ont un revenu plus bas et des conditions de vie moins bonnes. Alors évidemment, ça tombe sous le sens. On se dit, bah oui, c'est normal, c'est absolument logique. Sauf que quand on détaille, ça n'est pas si évident que ça. Et on peut quand même se poser la question de savoir comment se fait-il que dans nos sociétés dites supra-développées, supra-intelligentes, on en arrive à des paradoxes de cette sorte et des injustices de cette sorte. Et là, on est en plein. Alors, on peut parler de la crise des gilets jaunes, on peut parler de plein de choses. Mais là, on est vraiment au cœur du problème.
Richard Wilkinson.
Yes, I'm grateful for your remarks.
Ah ben, je suis reconnaissant de ces remarques. Merci. Mais notre livre porte surtout sur les conséquences psychologiques des inégalités. Ce livre, nous l'avons rédigé parce que nous avons vu que beaucoup de gens pensent que les inégalités, c'est quelque chose d'abstrait, qui ne vous touche pas, c'est seulement de la statistique. Mais nous montrons que l'inégalité, ça nous touche tous de manière intime. Et c'est le cas parce que les effets de classe et de statut sont très importants. Nous jugeons, nous portons des jugements de valeur les uns sur les autres en fonction des inégalités dont nous sommes l'objet. Et avec cela, il y a aussi cette tendance que nous avons à nous inquiéter nous-mêmes de ce que les autres pensent de nous. Est-ce que les gens pensent que je suis intelligent, beau, ou est-ce que je suis un imbécile aux yeux des autres et quelqu'un de moche? Nous sommes tous très sensibles au jugement des autres. Nous nous connaissons par le truchement des autres.
Et c'est encore plus vrai dans les sociétés inégalitaires.
What you just said is especially true when there's a rise in inequality.
I think that it's very fundamental to our human nature.
En réalité, ça fait partie de la nature humaine. C'est à peu près naturel que nous nous percevions par les yeux de l'autre. C'est vrai pour tous les êtres humains. Mais nos insécurités sont accrues par les inégalités, parce que l'inégalité nous fait penser qu'il y a une valeur plus grande chez certains. Qu'est-ce que les gens pensent de vous? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? On attache de la valeur des gens et ça, évidemment, ça génère des insécurités.
Alors, les insécurités dont vous parlez génèrent aussi cette question de la comparaison et de l'angoisse que génère cette comparaison, entraîne une augmentation très notable, indiquez-vous, et avec des chiffres qui sont absolument frappants, des maladies mentales. Alors, pas seulement des maladies de l'anxiété, mais de la dépression, par exemple, des addictions énormément, des problèmes aussi de poids, des problèmes d'addiction à la nourriture. Donc, un certain nombre de choses, y compris d'ailleurs chez les enfants, hein, pas seulement chez les adultes, mais aussi chez les enfants. Donc, un problème de santé mentale publique énorme.
On va y revenir tout à l'heure. Le regard de Marie Robert, notre philosophe.
Justement, j'allais exactement rebondir sur ça. En fait, ce qui est intéressant dans cette approche, c'est de quitter la sphère idéologique pour rentrer dans la sphère pragmatique de l'égalité. Donc, tout d'un coup, on voit l'impact. Alors là, je quitte le regard philosophique, mais pour être dans un regard de directrice d'école. Et effectivement, la question de l'égalité revient en permanence. C'est même dans tous les rapports et dans toutes les relations. C'est est-ce qu'il a autant que moi ? Est-ce que pourquoi il a eu une meilleure note ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Et en fait, quand il y a un sentiment d'inégalité, et donc un sentiment d'injustice, ça plonge l'enfant dans une crise existentielle, qui est autre chose qu'un simple caprice ou qu'une simple comparaison. C'est vraiment un sentiment global d'insécurité et qui développe, si ce sentiment se poursuit, un sentiment justement de, enfin, des comportements de violence, des comportements d'auto-violence, de violence à l'égard des autres, mais à l'égard de lui-même. Donc là, on est dans une urgence de l'égalité qui n'est pas juste une bien-pensance.
On y reviendra tout à l'heure. Vous pouvez réagir à notre conversation sur l'égalité au 01 45 24 7000, ainsi que sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière, Alexia Lacour, Antoine Vandeville et Claire Destacant m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Nicolas Bove, et c'est réalisé par Claire, par Alexia, par Stéphanie Texier ce matin, pardon. Serge Gainsbourg aux armes, etc.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories.
Grand Bien Vous Fasse.
Ceux qui ont un pistolet chargé.
Ali Rebihi.
Et ceux qui creusent.
Sur France Inter.
Toi, tu creuses.
10h26 et ce matin, on vous explique pourquoi une société égalitaire nous rend plus heureux avec le chercheur britannique Richard Wilkinson, co-auteur de Pour vivre heureux, vivons égaux, et avec également Alexandre Jost de la Fabrique Spinoza et Christy Lapelle-Douel de Psychologie Magazine.
Moi aussi, j'ai travaillé de 8h jusqu'à 18h ou 19h et j'étais payé à 1100. Pourquoi eux, ils ne peuvent pas le faire? Parce que simplement, ils sont des énarques. Parce qu'ils sont sortis des grandes écoles. C'est pour ça qu'on les paye plus cher. Eh ben non, je suis désolée. Tout le monde doit être dans l'égalité. Tout le monde doit être dans la même marche. On ne peut pas effectivement superposer des classes. C'est comme ça qu'on crée effectivement la division des classes. C'est ça qui crée l'inégalité, la discrimination.
Alexandre Jost, en France, le sentiment d'inégalité reste très vif. La crise des Gilets jaunes, hein, on vient de l'entendre, est née d'un puissant sentiment d'inégalité. On l'entend avec cette femme qui crie sa colère face à ce sentiment très profond d'inégalité.
Oui, je pense que il y a à la fois un enjeu objectif, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas suffisamment pour vivre, ont du mal à joindre les deux bouts du mois. Et ensuite, il y a un deuxième sentiment qui est l'appropriation subjective de cela. Et il se trouve qu'en France, on est un pays qui est particulièrement sensible à ces sujets d'inégalité. On est des enfants de l'Ancien Régime ou de la Révolution. On est le pays d'Europe qui s'identifie le plus, où chacun s'identifie le plus à sa carte de visite. On est aussi le pays dans lequel l'indice de distance hiérarchique est le plus fort. C'est une notion du sociologue Hofstede qui nous dit « j'ai du mal à vivre la distance à mon supérieur dans mon entreprise ». Donc tous ces éléments, ils font que inégalité donne le sentiment de domination. Et c'est en cela très différent de pays anglo-saxons, dans lesquels eh bien, le fait d'être dans une situation inégale à l'autre peut être aussi une aspiration à un futur meilleur. Et je prends un exemple très simple de ça, on appelle ça l'effet tunnel. C'est le sociologue Hirschman qui nous parle de ça. Si deux voitures sont dans un tunnel et que la file d'à côté avance, eh bien, en France, je vais me dire « Oh, ce salaud, il avance !» Et dans un pays anglo-saxon, je vais me dire « Oh, ouf, l'embouteillage est en train de disparaître !» Alors, mon propos n'est pas du tout de dire que les inégalités ne devraient pas être réduites, mais simplement de dire qu'on a une double punition en France, qui est la punition psychologique d'intérioriser et de se marteler ou se flageller encore plus pour ces inégalités.
Richard Wilkinson, sur ce que vient de nous dire Alexandre Jost.
I didn't pick up what you were saying was different about the.
Je vois pas très bien la différence entre les anglo-saxons et la France de ce point de vue-là. Votre métaphore du tunnel me paraît peut-être un peu simpliste, mais parce que nous nous punissons tous nous-mêmes, hein, anglo-saxons ou non, mais l'inégalité et ce qui a généré le mouvement des gilets jaunes et des votes populistes et les votes pour le président Trump, c'est le fait de se sentir dévalorisé. C'est un phénomène psychosocial. On se considère comme inférieur. Il y a des études allemandes qui montrent que le vote populiste dans différentes poches de la population en France et en Allemagne montre que le facteur commun, c'est la dévalorisation que l'on ressent. Il y a des études qui montrent les facteurs qui ont pousser les gens à voter pour Trump, c'est des phénomènes de mauvaise santé. C'est là où les gens, où il y a un taux de prévalence de diabète fort, c'est là qu'on a voté pour Trump. La consommation d'alcool, là où elle est la plus présente, c'est là qu'on a voté pour Trump. Donc, ce sont des indicateurs sociaux très importants. Et encore une fois, il s'agit de dévalorisation. Hein.
Je suis tout à fait d'accord. Je dis simplement que la comparaison, comment dire, donner de la force et de l'importance à une comparaison sociale est une punition de soi-même. Les sociologues montrent que les gens les plus heureux sont ceux qui adhèrent à des valeurs intrinsèques plutôt qu'extrinsèques. C'est-à-dire la capacité à définir par soi-même là où on souhaite aller dans la vie, plutôt que de définir son bonheur par un statut social, une rémunération, une place dans la société.
Yes, but part of why we.
Certes, mais une des raisons pour laquelle ces valeurs intrinsèques sont importantes, c'est justement parce que l'on gagne du respect par rapport à ce que l'on fait. Et on s'intéresse à des choses, mais on a quand même tous besoin d'être valorisés, appréciés pour ce que l'on fait. Et c'est ainsi qu'on accorde une valeur les uns aux autres. Et ça, c'est très important. Et de plus en plus, avec ces inégalités, c'est l'argent qui est le facteur le plus important. Vous nous avez dit que dans les sociétés anglo-saxonnes, on a tendance à considérer que les inégalités sont une occasion de progresser dans la société et de gravir l'échelle sociale. Mais en réalité, c'est pas tout à fait vrai. La mobilité sociale baisse dans les sociétés inégalitaires. Les enfants ont une plus mauvaise performance scolaire. Et il y a plus de problèmes de de drogue. Nous, nous pensons que d'une certaine façon, on a tendance à vouloir surmonter les problèmes causés par l'inégalité. Et si vous regardez les mesures de créativité ou d'innovation, par exemple, le nombre de brevets par personne, lorsque l'on fait une invention et qu'on essaye de déposer un brevet, eh bien, les brevets par tête d'habitant, eh bien, c'est plus faible dans les sociétés inégalitaires. C'est pas plus élevé. Donc, ça contredit un petit peu ce que vous dites, hein. Ça pousse pas les gens vers le haut en matière de créativité et d'innovation, par exemple.
Vous l'expliquez bien dans votre livre, Richard Wilkinson. Une société perçue comme inégalitaire, dans ces sociétés-là, on s'entend beaucoup moins bien, on se montre moins amical, on se met davantage en retrait, on préfère rester replié sur soi, et ça a donc un impact sur le bonheur collectif.
Yes,
l'école de santé publique de Harvard ont dit que c'est un polluant social collectif. En effet, ça nuit, l'inégalité nuit aux relations sociales. On participe moins à la vie communautaire, ça nuit à la confiance que l'on s'accorde les uns aux autres dans les pays très inégalitaires, bien plus inégalitaires que les pays riches et développés. Si vous regardez des pays comme l'Afrique du Sud ou le Mexique, où les inégalités sont énormes, eh bien, on s'aperçoit que les gens ont peur les uns des autres. Ce sont des gens dont les fenêtres sont équipées de barreaux et où les jardins sont barricadés, où les gens ne sortent pas la nuit pour manque de sécurité. Et cette image de la transformation des relations sociales dans des sociétés où l'on participe à la vie communautaire, où il y a des relations, où il y a des relations de mutualité, de partage, et ainsi de suite, donc il y a un fort contraste par rapport à ces sociétés très inégalitaires. Et il y a aussi à l'œuvre l'analyse des proportions. Alors, on peut regarder aussi comme indicateur la proportion de gens qui sont dans le gardiennage, la sécurité. Nous nous protégeons les uns des autres parce que nous avons peur les uns des autres. Et quand vous regardez le nombre de gens qui travaillent dans ces métiers-là, c'est important. Et évidemment, le nombre est croissant lorsque les inégalités sont plus grandes dans ces sociétés.
Bonjour Frédéric, vous appelez de Paris, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, que vous inspire Frédéric, oui. Que vous inspire notre conversation sur l'égalité?
Écoutez, moi, je suis très engagée à titre personnel dans un sujet qui concerne l'égalité professionnelle, donc l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes, et l'égalité de parcours. C'est un sujet qui me tient très à cœur. Moi, ce que je constate, c'est que les femmes sont de facto victimes d'inégalités. Bon, elles ont déjà une rémunération qui est en moyenne inférieure de 20%, c'est connu. Elles ont accès à moins de promotions que les hommes. Elles ont donc moins de chances, finalement, de se réaliser professionnellement. Et elles souffrent plus d'inégalités. Or, on sait, de par de certaines statistiques, que les femmes sont plus souvent victimes de dépression, souffrent plus, un petit peu ce que vous décrivez dans votre présentation. Mmh. Et elles sont de fait en charge de l'éducation des enfants. Mmh. Et bien souvent, enfin, majoritairement même. Et on peut se poser la question d'ailleurs de savoir si ces inégalités qui les concernent n'ont pas un impact social beaucoup plus vaste qu'on ne l'imagine.
Et psychologique.
Oui, psychologique, et puis même sur la société dans sa globalité, parce que cette souffrance qu'elles ressentent, parce que finalement elles n'ont pas l'accès au même parcours que les hommes, ça se traduit effectivement par de la souffrance, par de la défiance, par de la peur, par tout un tas de comportements qui sont pas forcément très rationnels, et qui à mon avis se restituent sur l'éducation, et font qu'il y a une déclinaison dans le temps de ce comportement, parce que finalement on n'essaye pas de corriger le problème. Or c'est la moitié de la population du monde, les femmes. Donc peut-être que déjà, commençons par rendre les hommes et les femmes égaux, peut-être qu'on pourra effectivement mieux adresser déjà d'une manière plus globale l'égalité.
Très belle réflexion Frédéric, merci d'être intervenu ce matin. Richard Wilkinson.
Yes, I agree very much with the things that caller has stressed.
Oui, je suis d'accord avec l'auditrice. Mais il y a des inégalités horizontales et des inégalités verticales. Et il y a des différences entre ces formes d'inégalité. Dans un certain sens, il s'agit de valorisation des individus, les différences de revenus, la hiérarchie sociale et ainsi de suite. C'est la grande dimension de la façon dont on se sent valorisé dans la société. Et comme l'a dit cette auditrice, il y a des inégalités, notamment dans la rémunération entre les hommes et les femmes. Alors, il y a aussi des inégalités s'agissant des facteurs ethniques, par exemple. Et ces inégalités s'expriment dans le champ économique. Mais encore une fois, j'en reviens à cette question de dévalorisation. On se sent dévalorisé. On a tort de penser que les processus à l'œuvre sont différents, parce que dès que quelque chose devient un marqueur d'infériorité, qu'il s'agisse de facteurs ethniques, de la langue que l'on parle ou que l'on ne maîtrise pas, ou alors de croyances religieuses aussi, eh bien, cela attire le même genre de stigmatisation. Donc, tout cela, ça procède des mêmes causes et des mêmes effets.
Alexandre Jost. Alors, moi, c'est un sujet qui me touche énormément. Merci beaucoup, chère auditrice. La Fabrique Spinoza a produit un rapport dont une des parties s'appelle « L'homme égalitaire heureux ». Et je trouve que c'est un parfait exemple en lien avec votre livre, Richard, du fait que c'est nocif, évidemment, pour les femmes, mais c'est nocif aussi pour les hommes. Lorsque un couple divorce, dans cette société à domination masculine, l'homme aura plus de mal à avoir la garde. Le fait qu'il ait une carrière, en général, le plus facile à mener, veut aussi dire qu'il subit le syndrome d'Atlas, c'est-à-dire de devoir porter la responsabilité financière sur ses épaules. Il a plus de mal à partager ses émotions. Et c'est, je crois, Joseph Stiglitz, dans son livre « Le prix de l'inégalité », qui nous rappelle que les sociétés se développeraient mieux économiquement si les femmes avaient une place plus égalitaire dans celle-ci. Donc pour moi, c'est le parfait exemple, merci madame, du fait que les inégalités sont évidemment nocives pour ceux qui en sont victimes, mais aussi pour la société dans sa globalité.
Christine Lapelle-Edouelle.
Allez, parole aux femmes. Deux minutes. Pas que les hommes. Ben oui, c'est vrai, bien entendu. Les femmes sont doublement stigmatisées, sont doublement pénalisées. Doublement, j'en sais rien. D'ailleurs, je dis doublement, ça peut être triplement, quadruplement, peu importe. Beaucoup plus pénalisées. Et on sait d'ailleurs que les personnes les plus fragiles et les plus démunies sont des femmes célibataires, avec des enfants, au chômage. Là, elles réunissent tout. Et si on ajoute en plus d'une origine ethnique stigmatisée, alors là, elles sont au maximum du maximum dans la difficulté. Donc, c'est vrai que, pour en revenir aux questions psychologiques, ces femmes-là ont une difficulté, mais absolument colossale, à arriver à remonter. Et trop souvent, vraiment trop souvent, non seulement les femmes sont stigmatisées, mais en plus, elles portent la responsabilité et la culpabilité psychologique de ne pas réussir à s'en sortir suffisamment.
Et avec au cœur la question de la confiance en soi et de l'estime de soi.
Absolument, la confiance en soi, l'estime de soi.
Il y a des conséquences psychologiques graves.
Et des conséquences de dévalorisation, de dépression et d'impossibilité de participer. C'est très difficile pour ces femmes-là, pour toutes les femmes d'une manière générale, mais pour ces femmes-là en particulier, de participer davantage à l'action sociale, enfin à l'activité sociale d'une manière générale.
Marie Robert, je rappelle que vous enseignez la philosophie. Quelle réflexion vous inspire notre thème du jour ?
Alors, plutôt que parler de l'égalité, en fait, je me suis posé la question d'où vient le signe égal ? Parce que ce curieux signe qu'on a tous en tête, ces deux barres parallèles. Et saviez-vous qu'à l'époque de Pythagore, en fait, le signe égal n'existait pas du tout ? Il est difficile d'ailleurs d'imaginer que jusqu'au XVIe siècle, les équations des mathématiciens étaient toutes rédigées à force de lettres et de mots. Alors bien sûr, il y avait quelques symboles, mais en fait, tous les symboles étaient personnels. Donc chaque mathématicien avait ses propres symboles, vous imaginez le bordel. Et donc finalement, c'est en 1575 que le symbole fait son apparition. C'est le physicien gallois Robert Ricord qui, voilà, pour donner un peu d'unité à tout ça, décide de créer un symbole. Et surtout, c'est pour éviter de répéter les termes « est égal à », puisqu'il l'avait plus de 200 fois dans son texte. Donc ce qui est assez amusant, c'est de se dire que c'est à la fois par flemme, à la fois par souci d'harmonisation, que naît le signe égal. Et au fur et à mesure, évidemment, le signe s'est imposé et est devenu une évidence. Et je pense que dans une émission sur l'égalité, il serait intéressant de l'utiliser et d'en faire une bannière de ce signe égal, un drapeau, et justement peut-être le plus utilisé des émojis.
Alors Elvin, merci beaucoup Marie-Robert. Oui, allez-y Richard Wilkinson.
I wanted actually to go back to what Christina said.
Ah, je voudrais revenir à ce que disait Christina.
That the experiments that have been done
les expériences menées dans différents contextes et qui montrent à quel point notre performance est touchée par la possibilité que l'on subjectif que l'on pense à fait partie d'un groupe inférieur. Eh bien, il y a des études, il y a une de la Banque mondiale qui est très intéressante, qui porte sur les castes en Inde. On leur a fait faire à des adultes et des enfants des tests, et il y a ceux qui savent à quelle caste ils appartiennent et ceux qui ne savent pas, donc une espèce de double aveugle, si vous voulez. Et quand les gens qui passent l'examen ou le test ne savent pas à quelle caste ils appartiennent, et bien leur performance est tout aussi bonne, voire meilleure. Et donc on a fait des tests pour le genre, l'ethnicité, la caste, donc. Donc si on appartient ou si on se sent appartenir à un groupe inférieur, et bien ça a une incidence négative sur votre performance. Et regardez un peu ce que l'on fait aux enfants à l'école primaire. Et comme vous l'avez dit, très justement, d'ailleurs, ils vivent cette infériorité en permanence. Et en fait, l'école est perçue par les enfants, et c'est d'ailleurs objectivement le cas, c'est un système de notation et de classement social.
Exactement, très, très rapidement, mais la même étude existe avec un exercice de mathématiques où on place les filles toutes seules dans une salle pour faire des maths, ou les filles mélangées avec des garçons. Et c'est assez troublant de voir qu'une quand les filles sont dans une classe mixte, donc mélangées à des garçons, les exercices sont beaucoup moins bons, parce qu'on a masculinisé la sphère des mathématiques, et qu'en fait, il y a un double rapport d'infériorité qui est un rapport d'infériorité dans le regard qu'on porte sur elle. Donc c'est assez saisissant.
Allez, continuez à réagir à notre conversation au 01 45 24 7000.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie, parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Mais ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué.
rêve, je le rêve. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être.
Si ça me fait juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
Angèle et Roméo Elvis interprétaient Tout oublié.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h47 et ce matin on se demande si une société égalitaire peut rendre plus heureux avec le chercheur britannique Richard Wilkinson qui publie Pour vivre heureux, vivons égaux et avec Alexandre Jost de la fabrique Spinoza et la journaliste de Psychologie Magazine Christina Pelé-Douel. Alors, question par courriel de Julien de Paris. Une société totalement égalitaire, ça ne peut pas exister. Regardez ce que l'utopie communiste a produit comme méfait au cours du XXe siècle. Et puis Elvin nous dit, j'essaie de réécouter un terme et c'est impossible, je tombe sur votre émission ce matin. Réalisez-vous à quel point la tonalité d'ensemble est tout entière dédiée au bobo-gauchisme? À quand une émission sur l'ineptie économique et sociale du socialisme partout où il a été appliqué? D'ailleurs, outre-Manche, on vous accuse d'être un affreux socialiste communiste, Richard Wilkinson.
Well, if you consider understanding some of the things that lead to lower life expectancy.
Moi, j'essaie de comprendre les facteurs qui amènent à une baisse de la longévité, mais pour autant, je ne me considère pas pour gauchiste, comme gauchiste pour cette raison-là. Il faut faire une distinction entre la science, l'étude de ces processus, la compréhension des tenants et des aboutissants. Pourquoi est-ce que les enfants ont une plus mauvaise performance scolaire? Pourquoi y a-t-il plus d'homicides dans telle ou telle société? Et il ne s'agit pas de socialisme. Alors, la façon dont il faut agir, là, c'est une autre question. Comment gérer ces inégalités qui génèrent ces problèmes-là? C'est une autre question. Ça, c'est de la politique. Alors, évidemment, c'est intéressant de voir ce qui est advenu de ces pays communistes, de ces régimes communistes qui ont imposé l'égalitarisme. Alors, évidemment, des états policiers perdent de la liberté d'expression et ainsi de suite. Mais nous, on nous a obligés à penser à la politique, c'est que, en fait, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il faut étendre la démocratie. Il faut plus de démocratie dans le lieu de travail, dans toutes les communautés où les gens sont ensemble. Il faut plus de représentation des salariés, et ainsi de suite. Et ça, c'était pas du tout un processus communiste.
Alexandre Jost. Moi, ce que je comprends de cette remarque, enfin, je comprends la surprise, mais société égalitaire ne veut pas dire société où tout le monde gagne la même chose. Il me semble que le principe même d'inégalité est subjectif et nécessite donc de s'interroger sur les valeurs qui sont sous-jacentes. Quelles sont les valeurs qui nous permettent de dire qu'une personne gagne plus ou moins qu'une autre? Est-ce que c'est l'utilité sociale? Est-ce que c'est le développement économique? Est-ce que c'est le mérite? Et l'entreprise en elle-même donne des réponses intéressantes. Je vais prendre deux exemples courts. Le premier, c'est l'entreprise Gravity Payments qui s'est dit, le patron a gagné $1 million par an et il a décidé de re-répartir son salaire pour que la totalité des employés gagne $5,000 par mois. Donc société américaine avec une certaine expérience de la répartition des richesses et une autre expérience totalement opposée, c'est chez Officience où les salaires sont versés en libre conscience, c'est-à-dire que chaque collaborateur affiche de son propre point de vue quel est son mérite et donc quel est son salaire, et les salaires sont débattus collectivement pour établir ce qui semble juste. Tout ça pour dire que cette notion d'égalitarisme ne me semble possible que s'il y a un débat collectif pour établir quels sont les mérites et donc la valeur de chacun.
Richard Wilkinson.
We argued actually that we're
Nous pensons qu'il y a différents types de capitalisme. Nous comparons les économies de marché riches et nous essayons de comprendre pourquoi il y a une meilleure performance sur tout un spectre de critères sociaux et sanitaires que d'autres. Et c'est important de faire une distinction entre la politique d'une part et la science de l'autre. Alors, évidemment, est-ce qu'il y a des pays complètement égalitaire. Et tout ce que l'on peut faire, c'est regarder les conséquences de l'existant. En réalité, il n'existe pas de société plus égalitaire que les sociétés scandinaves. Donc, si on a plus d'égalité que dans les sociétés scandinaves, on ne sait pas quelles en seront les conséquences. En tout cas, il serait bénéfique d'être au moins aussi égalitaire que le sont les sociétés scandinaves, par exemple.
Richard Wilkinson, il y a une chose qui m'a frappé à la lecture de votre livre, on l'a dit tout à l'heure, c'est le fait que les sociétés inégalitaires généraient plus de troubles mentaux que dans les sociétés égalitaires. Par troubles mentaux, j'entends anxiété, dépression. Comment expliquer ces liens entre les inégalités et les maladies mentales? Quelles sont les explications les plus fiables?
Well, I think everyone understands that the quality of
chacun et chacun comprendra que lorsqu'on a le soutien d'amis ou de famille, évidemment, ça valorise, c'est très important et c'est évidemment, ça a des conséquences positives sur notre santé mentale. Mais désormais, nous comprenons comment certains troubles mentaux sont corrélés à des problématiques de domination et de subordination. On peut parfois accepter sa infériorité. Les gens vous regardent de dos et ainsi de suite. Les gens considèrent que vous êtes incapable de faire telle ou telle tâche. Mais à ce moment-là, vous vous retirez, vous vous mettez en retrait de la vie sociale et c'est là qu'est générée la dépression, par exemple. Mais lorsqu'on se sent jugé, on peut également réagir en essayant de faire des efforts pour mieux se présenter. Donc là, on essaye de s'améliorer. Alors, dans le narcissisme. Et là, ça entraîne le consumérisme. Pour bien apparaître face à l'autre, il faut faire montre de son élégance vestimentaire ou de certains comportements, certaines possessions et ainsi de suite. Et quand on vit dans une société plus inégalitaire, on aura tendance à consommer et plus et acheter des biens de visibilité sociale, par exemple. Ça, c'est accru par les inégalités. Justement, le point de départ étant l'insécurité que l'on
Christine
ressent.
Oui, ce qui entraîne d'ailleurs ces phénomènes d'hyperconsommation et de course, alors qui entraînent aussi des problèmes environnementaux énormes dont vous parlez beaucoup dans le livre. Et tout est intriqué, tout est lié. Alors moi j'aimerais vous poser quand même la question, évidemment à très peu de temps de la fin, c'est un peu embêtant, mais... par quel moyen, parce que le problème semble tellement gigantesque et énorme, par quel moyen pourrions-nous arriver à peut-être commencer à voir le début d'une solution, le début d'une sortie de cette inégalité délétère et qui est globalisée, qui n'est pas seulement dans quelques pays. Quelques pays s'en sortent, mais la plupart du monde est plongé dans cette difficulté.
Well, I think we have to deal with tax havens and tax avoidance.
Eh bien, d'abord, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux. Il faut s'attaquer à ça. Il y a des efforts qui sont faits à l'OCDE, notamment, ça commence. Mais les inégalités croissantes résultent surtout de l'accroissement spectaculaire des revenus des très riches. Il y a des différences énormes de salaire entre les dirigeants et les ouvriers. Jusque dans les années 80, le PDG gagnait 30 ou 40 fois plus que l'ouvrier de base. Mais dès les années 2000, cette différence a augmenté. Et maintenant, on est à 300 ou 400 fois plus. Et ça, c'est délétère pour la performance de l'entreprise. C'est démontré. L'argent revient aux actionnaires et en réalité, les actionnaires gagnent plus. Cela a été démontré dans les entreprises où le PDG est moins rémunérés que ceux qui le sont beaucoup plus que les ouvriers de base.
Pourquoi pour vous la méritocratie, c'est-à-dire le fait que chacun, le statut de chacun est déterminé par ses capacités, pourquoi la méritocratie, pour vous, c'est une illusion ?
La méritocratie est une illusion parce que nous imaginons tous que le rapport entre la capacité et la position dans la hiérarchie sociale est généré par une capacité innée pour se positionner dans la hiérarchie sociale. Mais la causalité, il faut la voir de façon inverse. Tout démarre de l'enfance et du statut social dans lequel vous avez grandi. Mais aujourd'hui, on en sait plus sur la malléabilité du cerveau. Maintenant, on a des moyens d'étudier le cerveau qui sont très poussés et on sait comment le cerveau évolue en fonction de la façon dont on vit. On sait l'impact qu'a la pauvreté sur le cerveau des enfants, mais on sait également ce que l'apprentissage peut avoir comme impact. Si on apprend à jouer un instrument de musique, si on apprend une langue étrangère, eh bien, cela développe une partie du cerveau. On le sait. Et on sait quelle partie du cerveau. Donc, la vie que l'on mène détermine nos capacités. Et ce n'est pas le contraire.
Et vous posez également, Charles Wilkinson, la question de l'environnement.
Oui, je crois que ces rapports sont de plus en plus clairs. L'inégalité exacerbe le consumérisme. On en a parlé, on essaye d'apparaître bien aux yeux des autres grâce à ce que l'on achète. Mais étant donné que la vie communautaire se délite, nous avons moins l'esprit public. Nous sommes moins conscients du bien public et dans les sociétés inégalitaires, eh bien, le recyclage des déchets se fait moins. Si l'on regarde l'opinion des dirigeants d'entreprise dans les sociétés inégalitaires, on s'aperçoit que ces gens-là sont moins préoccupés par l'environnement que dans les sociétés plus égalitaires. En réalité, les inégalités exacerbent les choses et on se sent moins concerné par le bien commun.
Merci beaucoup, Richard Wilkinson, je recommande chaudement la lecture de Pour vivre heureux, vivons égaux, comment l'égalité réduit le stress, préserve la santé mentale et améliore le bien-être de tous. C'est publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci beaucoup Christina Pelédoel de Psychologie Magazine. Merci Alexandre Jost de la Fabrique Spinoza. On peut aller faire un tour sur votre site. Vous avez lancé en 2019 une grande campagne Bonheur et Éducation.
Oui, tout au long de l'année, tous les mois, et bien des événements sur le lien entre bonheur et éducation. Le premier ou le deuxième sera le 20 mars dans différentes villes de France. Rejoignez-nous sur education@fabriquespinoza.org pour prendre part à cette campagne.
Et merci beaucoup à l'excellente traduction de Xavier Combes. Demain, nous attendons toutes vos questions sur les phobies, que vous ayez peur de l'avion, de conduire, des araignées, du vide comme Laetitia Gaillé ou des bananes comme la chanteuse Louane. Appelez-nous au 01 45 24 7000. Nous recevrons les psychiatres Christophe André et Antoine Pellissolo. À la technique ce matin, Nicolas Delmas et Pierre-Yves de Rolin.